Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous, par ce même Esprit, de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous en sommes dans ce commentaire du Père de l'Église, de l'Évangile selon Saint-Marc au chapitre 7, au verset 31, à la page 11 donc du Polycopier, qui couvre les chapitres 6 à 10 de Saint-Marc. Voilà le texte. « Quittant de nouveau les confins de Tyr, Jésus vint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le milieu de la Décapole. On lui amena un homme sourd et muet, et on le suppliait de lui imposer les mains. Alors Jésus, le tirant à part de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa salive. Élevant les yeux au ciel, il soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvrez-vous ». Et aussitôt ses oreilles furent ouvertes et le lien de sa langue fut rompu. Et il parlait distinctement. Il leur défendit de le dire à personne, mais plus il leur défendait, plus il le publiait. Et plus ils étaient saisis d'admiration en disant « Et a bien fait toute chose, il a fait entendre les sourds et les muets ». Nous voyons en plusieurs passages de l'Évangile notre Seigneur Jésus-Christ guérir des sourds, des muets, des paralysés, des aveugles. J'ai déjà expliqué souvent après les pères que ces maladies représentent des maladies beaucoup plus profondes. Les maladies corporelles sont des symboles des maladies spirituelles qui sont cachées derrière. Et donc, notre Seigneur Jésus-Christ montre en guérissant les maladies physique de façon visible que tout le monde peut voir, qu'il a aussi le pouvoir de guérir les maladies cachées, à savoir les maladies spirituelles. Les sourds représentent la surdité spirituelle. Les muets représentent le mutisme spirituel. Qu'est-ce que c'est que la surdité spirituelle? C'est ceux qui se bouchent les oreilles pour pas entendre les appels de la miséricorde du bon Dieu pour nous. Le bon Dieu nous parle soit par les circonstances, soit par notre conscience, par l'ange gardien, par une bonne personne autour de nous qui essaie de nous ramener sur le droit chemin. Souvent, nous bouchons les oreilles pour ne pas entendre les avertissements que le bon Dieu nous envoie. Le mutisme spirituel entraîne très souvent les confessions sacrilèges, donc les communions sacrilèges. À cause de ce mutisme spirituel, je n'ose pas parler au confessionnal. Je cache certains péchés, je cache certaines circonstances importantes de certains péchés pour tromper le prêtre au confessionnal. Alors, mes bien chers frères, il nous faut justement faire attention à bien libérer l'essence spirituelle de notre âme. Dans ce texte d'évangile que je viens de vous lire, donc c'est au chapitre 7, verset 34, donc, notre Seigneur Jésus-Christ va prononcer ce mot hébreu « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvrez-vous ». On retrouve ce mot « Ephphatha » et la même action, notre Seigneur Jésus-Christ, avant de prononcer ce mot, notre Seigneur, nous dit l'Évangile, va tirer à part de la foule le sourd et muet, lui mettre les doigts dans les oreilles et lui toucher la langue avec sa salive. Et bien, le prêtre va répéter exactement ce même geste avec le baptême, donc il va avec sa salive toucher le nez et les oreilles du baptisé
en disant Effeta quod est ad aperire inodorem suavitatis, tuatem et fugaret diabole apropinquabitenim judicium Dei. Effeta, c'est-à-dire ouvrez-vous dans une odeur de suavité, et vous, diable, démon, fuyez, enfouillez-vous, car le jugement de Dieu va s'approcher. Et ensuite, le prêtre, pendant le baptême, donc, va commencer les dernières préparations avant l'ablution elle-même. Renoncez-vous à Satan, renoncez-vous à toutes les œuvres de Satan, renoncez-vous à toutes ses séductions. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères de l'Église. Encore une fois, sur le polycopier, nous en sommes à la page 11. La décapole est une contrée qui comprend 10 villes. Déca, ça veut dire 10. 10 villes situées au-delà et à l'est du Jourdain, en face de la Galilée. Donc Jésus mène hors de la foule ce sourd muet qui lui est présenté parce qu'il ne veut pas opérer ce miracle aux yeux de tous. Et nous apprend ainsi à fuir la vaine gloire et tout sentiment d'orgueil, car il n'y a rien qui puisse attirer davantage la grâce de faire des miracles comme l'humilité et la modestie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va tirer à part de la foule pour agir de façon très discrète, pour montrer aux apôtres qui ont reçu le don des miracles, ou qui vont le recevoir. Donc pour montrer aux apôtres de fuir justement le désir de vaine gloire et d'orgueil. N'oublions pas que la concupiscence la plus profonde en nous, c'est l'orgueil. Encore plus profonde sans doute que la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair. Et donc contre cette vaine gloire, contre cet orgueil du monde moderne, il faut l'humilité, la modestie. Ça n'empêche pas de faire son devoir d'État. On doit faire son devoir d'État. Mais avec humilité et modestie, ne cherchons pas trop à faire les choses devant les yeux des hommes. Ne nous préoccupons pas trop de ce que les hommes pensent, mais préoccupons-nous davantage de ce que Dieu pense. Jésus met donc ses doigts dans les oreilles de cet homme, lui qui pouvait le guérir d'une seule parole, pour montrer que ce corps qui était uni à la divinité était revêti avec ses actions, ainsi que ses actions d'une puissance toute divine. Donc la personne qui fait ce miracle est à la fois Dieu et à la fois homme. Il y a une seule personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Jésus est la deuxième personne de la Sainte Trinité devant cette foule. Mais en cette deuxième personne de la Sainte Trinité, il y a une double nature. Il est parfaitement Dieu, il a la nature divine, il est parfaitement homme, il a la vertu humaine. Et donc, il veut montrer, si vous voulez, par ce miracle, justement, cette double nature. La nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, tous les gens qui sont autour de lui peuvent la voir. De la même façon, qu'ils peuvent tous voir que ce sourd et muet retrouve l'usage de l'audition et retrouve l'usage de la langue. Ça, tout le monde peut le voir, tout le monde peut l'entendre. Mais notre Seigneur Jésus-Christ montre aussi qu'il fait ce miracle par un pouvoir divin. Et donc, il est vraiment Dieu, et c'est parce qu'il est Dieu qu'il peut faire ces miracles. Et cette divinité ne se voit pas, et donc elle est en quelque sorte cachée derrière l'humanité, et la guérison de cet homme sourd et muet montre que le bon Dieu a aussi le pouvoir sur les âmes. Un pouvoir qui se voit, la guérison extérieure, manifeste un pouvoir qui ne se voit pas, la guérison intérieure. Et la guérison intérieure, celle de l'âme, est bien plus importante que celle du corps. Je dis souvent que si les hommes modernes se préoccupaient au moins autant de leur âme qu'ils se préoccupent de leur corps, ils seraient tous des saints depuis longtemps. C'est incroyable ce que peuvent faire les gens sur le plan corporel, sur le plan physique, tout simplement pour se maintenir en bonne santé, pour perdre quelques kilos, pour perdre une difformité physique. Ils sont capables de remuer ciel et terre, mais si je leur demande le dixième de ça pour s'occuper de leur âme, ils n'ont pas le temps. Par la suite du péché d'Adam, la nature humaine avait été condamnée à de nombreuses infirmités. Et l'homme était profondément blessé dans ses membres et dans ses sens. N'oublions pas que la mort et toutes ses conséquences sont une conséquence du péché originel. Et donc, avant le péché originel, il n'y avait pas de surdité et de mutisme et d'aveuglement et des choses comme ça chez Adam et Ève. Il n'y avait pas de maladie chez Adam et Ève. Parce que justement, il y avait cette union entre l'homme, entre l'humanité et entre le corps et l'âme en Adam et Ève, mais sans qu'il y ait une intervention, si vous voulez, d'une révolution intérieure. En nous, il y a une révolution intérieure. Les passions se révoltent contre la volonté contre l'intelligence et l'intelligence contre Dieu. Avant le péché originel, cette révolution n'existait pas. Donc, il y avait un ordre, ce qu'on appelait l'intégrité, un des privilèges d'Adam et Ève, le privilège de l'intégrité, un des dons préternaturels, privilège d'intégrité qui, justement, marquait cette soumission totale. Et l'arrivée du péché originel va non seulement introduire la mort, mais introduire aussi tout ce qui tourne autour de la mort. Les maladies, par exemple. Les maladies vont apparaître pour les hommes après le péché originel. Elles n'existaient pas avant. Jésus-Christ est donc venu pour nous montrer en lui-même la nature humaine rétablie dans sa perfection. Et c'est la raison pour laquelle il ouvre les oreilles avec ses doigts et lui rend l'usage de la parole au moyen de la salive. Il toucha sa langue, dit le texte, avec de la salive. Donc, les pères résument en disant que nous voyons ici clairement, c'est au milieu de la page 11, nous voyons ici clairement les deux natures distinctes dans la seule personne de Jésus-Christ. Il lève les yeux au ciel en tant qu'il est homme, mais aussitôt d'un seul mot aussi il communique une puissance toute divine, il rend à cet homme l'usage de l'ouïe et de la parole. Et c'est pour ça que même le démon lui-même n'était pas certain de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, il voyait, parce que le démon peut voir ces choses, il voyait tous les miracles faits par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il était un peu perdu, le démon, il ne savait pas très bien si notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu. De même qu'il voyait les apôtres faire des miracles, il voyait bien qu'il y avait une sainteté infiniment plus grande encore chez notre Seigneur Jésus-Christ, mais le démon n'avait pas encore fait le lien entre cette sainteté et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si le démon avait su que notre Seigneur Jésus-Christ était Dieu, et que notre Seigneur Jésus-Christ était venu sur la terre pour, par sa mort sur la croix, fermer définitivement le royaume du démon, le démon ne l'aurait jamais fait condamner à mort par les Juifs. Donc Jésus gémit encore. On voit dans le texte sacré que notre Seigneur Jésus-Christ va manifester par son expression corporelle, justement, qui, c'est sa profonde commisération pour les pauvres et les miséreux. Il gémit encore parce qu'il s'est chargé de nos intérêts et qu'il est touché de compassion pour notre nature en voyant la profonde misère dans laquelle le genre humain était tombé. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, par ses miracles, montre son incroyable miséricorde. On voit la douceur extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ à l'égard des pécheurs. On ne voit pas d'agressivité de notre Seigneur, même à l'égard de ses ennemis, même à l'égard des pharisiens, des publicains, pas des publicains, des pharisiens, des scribes, qui ne pensaient qu'à tuer notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ se présente comme un agneau qui va à la boucherie. Certes, il n'accepte pas de descendre au-delà d'une certaine limite. On le voit très bien lorsqu'il prend un fouet de corde pour chasser les vendeurs du temple, en leur reprochant justement d'être des sépulcres blanchis. Vous avez fait d'une maison de prière une caverne de voleurs. Eh bien, mais en même temps, on voit cette extraordinaire compassion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Saint Jérôme nous dit que Jésus nous apprenait ainsi à nous glorifier, non dans notre puissance, dans notre vertu, mais dans la croix et l'humiliation. Il défend encore de publier ce miracle. C'est verset 36, il leur défendit de le dire à personne. Non dans notre puissance, dans notre vertu, mais dans la croix et l'humiliation. Pardon. Il défend encore de publier ce miracle, pardon, pour ne pas exciter avant le temps marqué dans les Juifs l'envie qui devait les rendre coupables de déicide. Notre Seigneur Jésus-Christ avait voulu, avant de mourir, prendre un temps de vie publique, 3 années, pour justement prêcher la doctrine, pour que les Juifs n'aient plus aucune excuse. Il voulait absolument montrer qu'en sa personne étaient réalisées toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et donc, pendant les 3 ans de vie publique, notre Seigneur Jésus-Christ va prêcher. On voit très bien, à plusieurs reprises dans l'Évangile, alors que, par exemple, les pharisiens entourent notre Seigneur plein de haine pour le tuer, ce n'est pas encore l'heure. Alors l'Évangile dit, il passa au milieu d'eux et s'en alla. Donc notre Seigneur ne permet pas aux pharisiens et à ses ennemis de le tuer avant l'heure. Au bout de 3 ans, alors là, il va, après avoir donné les derniers signes de sa divinité, c'est au moment de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, au début de la passion, au jardin des Oliviers, lorsqu'il la foule dirigée par Judas vient le prendre au jardin des Oliviers et qu'il leur dit « Qui cherchez-vous ?» Et ils répondent « Jésus de Nazareth ». Et il dit simplement « Ego sum, c'est moi ». Et en disant ces mots, nous avons déjà vu tout ça, eh bien, il manifeste sa divinité et cette foule nombreuse, cette foule immense, cette foule importante qui était là pour l'arrêter, peut-être, on ne sait pas, plusieurs centaines de personnes sans doute, eh bien, ils tombent tous paralysés pour bien montrer justement qu'il est Dieu. Et il va renouveler un deuxième miracle juste après, en guérissant le serviteur Malchus, serviteur du grand prêtre, à qui Saint-Pierre venait de couper l'oreille droite. Donc il va ramasser l'oreille dans le sable, la nettoyer et la remettre en place, pour bien montrer qu'il est Dieu. Et là, on sent, non pas qu'il arrête d'être Dieu, mais qu'il arrête de manifester cette divinité. Et c'est la passion qui vraiment commence. Jésus va être vilipendé, on va lui cracher dessus, on va lui cogner dessus, on va le massacrer littéralement, physiquement parlant, on va le flageller, le couronner d'épines, lui faire porter la croix, le crucifier. Donc on a l'impression que notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, n'est plus Dieu, mais il est toujours Dieu. Et on voit très bien tous ces miracles, cette humanité que tout le public peut voir, cache sa divinité. Et ces miracles manifestent sa divinité. Dans le sens allégorique, Tyr, puisqu'il vient de quitter les confins de Tyr, Tyr signifie « endroit resserré ». Ça représente la Judée à qui le Seigneur dit par son prophète « la couche est trop étroite » et ce qui le force de se transporter chez d'autres nations. Notre Seigneur Jésus-Christ veut faire des miracles partout, mais il y a des endroits où il est mal reçu. Et c'est curieux de voir que notre Seigneur Jésus-Christ n'insiste pas. Il va même dire à ses apôtres, lorsque vous arrivez dans une ville, si cette ville ne vous reçoit pas correctement, frappez vos sandales l'une contre l'autre pour dégager la poussière de la sandale, pour bien manifester que vous abandonnez ces villes à la justice de Dieu. C'est pareil avec nous aujourd'hui. Le bon Dieu travaille avec toutes les âmes. Il y a des âmes qui se moquent de lui. Et notre Seigneur Jésus va revenir, mais il respecte la liberté des gens. C'est un grand mystère. Beaucoup de gens nous disent ces choses-là, beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe actuellement, je peux un petit peu réaliser ça. Ils disent, mais monsieur l'abbé, c'est comme dommage, pourquoi est-ce que le bon Dieu... Enfin, je ne sais pas, pourquoi le bon Dieu ne fait pas un miracle et convertit Macron et Castaner et Philippe et tous les dirigeants politiques de la France. S'il les convertissait, la France deviendrait chrétienne, reviendrait fille de l'Église, ce serait magnifique. Ah. Oui. C'est comme Saint-Pierre qui dit à notre Seigneur Jésus-Christ, « Seigneur, il n'est pas question que vous soyez crucifié. » Notre Seigneur Jésus-Christ va montrer sa divinité par sa crucifixion, sa mort. Mais après la mort et la crucifixion et la mort, il y a la résurrection de la même façon aujourd'hui. Certes, on a l'impression aujourd'hui que notre Seigneur Jésus-Christ dort au fond de la barque, mais il est toujours là, attention, il est toujours Dieu. Même lorsque les puissances publiques en France utilisent leur pouvoir pour essayer d'anéantir, de couvrir notre Seigneur Jésus-Christ de crachats, cette semaine dernière, il y a encore des horreurs permises à France Inter, je crois, par la directrice de France Inter, qui a laissé un voyou... blasphémer de façon tellement odieuse que je ne pourrais même pas répéter le blasphème, blasphémer notre Seigneur Jésus-Christ. Bon, on pourrait se dire, mais pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas transformé en statue de pierre ces gens-là? Notre Seigneur Jésus-Christ respecte notre volonté propre. Il attend. Mais il a une limite dans son attente. De la même façon, il prépare sa mort. Il accepte de mourir pour nous le vendredi saint, mais il ressuscite le troisième jour. Et là, une fois qu'il est ressuscité le troisième jour, le jour de Pâques, c'est terminé. Les pharisiens, les scribes ne peuvent plus rien contre lui. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps glorieux, ne laisse plus littéralement apparaître son humanité. Il a un corps glorieux. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Nous, on est avant la passion, on n'est pas encore arrivé au temps. Au temps de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, combien de temps ça va durer? Est-ce qu'on va continuer de descendre encore un peu plus bas dans l'horreur morale en France? Est-ce que la France va continuer de descendre dans les enfers? Sans doute, sans doute. Eh bien, est-ce que ça veut dire que Dieu n'est plus Dieu? Bien sûr que Dieu, bien sûr que non, notre Seigneur est toujours Dieu. Rappelez-vous cette phrase du verset 37, « Il a bien fait toutes choses, il a fait entendre les sourds et parler les morts. » Notre Seigneur Jésus-Christ sait ce qu'il fait. Ils vinrent par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le milieu de la Décapole. Sidon veut dire chasse en araméen. L'animal indompté qu'il faut prendre, c'est notre nation. La mer figure l'inconstance et la mobilité du monde. Les vagues qui souffrent, qui s'enflent, représentent justement le monde moderne qui change tout le temps. C'est au milieu de la Décapole qui représente les 10 commandements. Décapole, ça veut dire les 10 villes. Ça représente les 10 commandements que le Sauveur vient pour sauver les nations. Donc, j'aime beaucoup cette image toute simple que je dis souvent en sermon pour expliquer aux gens qui me disent « Mais monsieur l'abbé, c'est pas possible, on va tous couler, c'est impossible, on peut pas continuer comme ça, regardez-moi ces déclarations abominables de François, regardez les obstacles qui viennent du gouvernement français contre l'église catholique, toutes les écoles catholiques n'existent plus en France, vont être toutes fermées, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et rappelez-vous l'histoire du bouchon. Les catholiques, c'est comme un petit bouchon de champagne qui flotte sur une mer en furie. Et essayez de couler un bouchon de champagne qui flotte sur la mer. C'est impossible. Il peut y avoir des débats de 20 mètres qui s'abattent sur ce petit bouchon. Le bouchon va disparaître dans l'écume. On a l'impression qu'il a été annihilé par la masse d'eau. Mais dès que la vague est passée, hop, le bouchon repart. Ressort et se remet à flotter gaiement au sommet de la vague. Et les vagues ne peuvent rien faire contre le bouchon. Mais une âme en état de grâce, c'est comme ça. Une âme en état de grâce, c'est un bouchon qui flotte au milieu de la tempête. Le vent peut hurler, les vagues peuvent enfler, la tempête peut se déchaîner, l'ouragan peut se déchaîner, mais il est impossible pour un ouragan même de force 5 de détruire un bouchon de champagne. Il ne peut pas. Parce qu'il continuera à flotter sur l'eau. Eh bien, c'est ça notre histoire. Combien de temps ça va durer? J'en sais rien. Mais faire très attention à ça, parce qu'il me semble qu'un des grands risques actuellement, dans la situation actuelle de l'Église, c'est le risque de découragement. Le risque de découragement. Et ça, c'est très important, surtout quand on parle à des nouveaux convertis ou que des gens qui ne sont pas encore catholiques, des adultes, nous demandent le baptême. Il faut bien expliquer tout ça aux gens pour qu'ils ne soient pas scandalisés. Mais c'est toujours un petit peu délicat. Moi, j'ai encore reçu, il y a quelques jours, un beau message d'un musulman converti à la foi catholique, que je ne connais pas, je n'ai jamais vu, ce n'est pas moi qui l'ai converti. Il s'est converti quelque part. Mais manifestement, il n'est pas très au courant de ce qui se passe dans l'Église. Alors, il a été converti, je pense, d'après ce n'est pas dit directement dans son message, je pense, d'après le contexte, qu'il a dû être converti, mais dans l'église de Vatican II. Et donc, une fois converti, il se rend compte, si vous voulez, de plus en plus, qu'il y a en fait 2 églises. C'est pour ça que quand je prépare des non-catholiques au baptême, des adultes au baptême, au début, je ne le faisais pas. Il y a 40 ans, je n'osais pas trop le faire, parce que je pensais, j'avais peur de scandaliser les futurs baptisés. Mais actuellement, je le fais. J'explique la doctrine de l'église, mais après, j'explique avant de les baptiser, je dis attention. Il faut que vous compreniez que vous avez besoin d'une double conversion. Première conversion, de comprendre que l'Église catholique est l'unique et véritable Église, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Deuxièmement, vous devez comprendre aussi que l'Église actuelle de Rome avec Bergoglio n'est pas l'Église catholique. Et ça que je n'aime pas du tout, des gens même de bonne foi, de bonne volonté, qui, parlant des abominations de Bergoglio, disent, regardez-moi ça, l'Église catholique, c'est épouvantable, regardez ce qu'a dit Bergoglio dans l'Église catholique. Mais Bergoglio n'est pas dans l'Église catholique. L'Église catholique est une sainte catholique et apostolique. L'Église catholique étant sainte, ne peut pas dire des horreurs contre la foi. Le simple fait que Bergoglio prononce ses horreurs contre la foi Rappelez-vous ces derniers blasphèmes contre la Sainte Vierge Marie, disant qu'elle était qu'elle n'était pas immaculée, qu'elle n'était pas co-rédemptrice du genre humain et médiatrice de toutes les grâces. Eh bien, malgré tout ça, si vous voulez, il faut bien comprendre que toutes ces horreurs ne sont pas faites par quelqu'un qui est catholique. Il y a deux églises en présence. Et quand je donne une conférence sur ce sujet, surtout si je parle à des gens que je ne connais pas, et des gens qui ne sont pas forcément tous catholiques pratiquants, j'aime beaucoup parler ou donner des conférences à des gens qui ne sont pas catholiques ou qui sont catholiques non pratiquants, du moment qu'ils cherchent Dieu. Qui cherchent Dieu, même s'ils n'ont pas encore trouvé, du moins qu'ils le cherchent. Et j'explique bien ces choses-là. Je dis au début, attention, quand j'utilise le mot catholique, église catholique, je parle de l'église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, une sainte catholique et apostolique, et une sainte catholique et apostolique jusqu'à la fin des temps. Si je parle de l'église actuelle de Rome, sous la charge de Bergoglio, ce n'est plus l'église catholique, et donc je n'utilise jamais le mot église catholique quand je parle de l'église de Bergoglio. J'utilise le mot église de Vatican II pour que les choses soient claires et précises. Vous voyez ? En bas de la page 11, une note importante ici des pères. Le genre humain, composé d'une multitude de membres, est semblable à un homme affecté de diverses infirmités. Il se trouve figuré dans le premier homme, c'est Adam. Il devient aveugle, tout en voyant, sourd en entendant, muet tout en parlant. On vient prier le Seigneur de lui imposer les mains. Ce sont les patriarches et les justes qui désiraient si vivement voir s'accomplir son incarnation. Donc pendant à peu près 7000 ans, Adam, entre 5 et 7000, pas plus, 7000 ans grand maximum, Adam et Ève vont attendre le Rédempteur. Il a été annoncé, hein, lorsque Dieu va maudire le serpent au livre de la Genèse. Il va maudire le serpent et il va parler d'une femme. Je mettrai une inimitié entre ta semence et la semence de la femme. Cette femme, c'est avec un grand F dans le texte, cette femme, c'est la très sainte Vierge Marie qui donc annonce le Rédempteur qui va venir par elle. Donc le genre humain est affecté de ces diverses infirmités, cette surdité spirituelle, ce mutisme spirituel, cet aveuglement spirituel, cette paralysie spirituelle. Et notre Seigneur Jésus-Christ va lui imposer les mains, il va mettre les doigts dans ses oreilles, toucher sa langue et sa salive, lever les yeux au ciel, soupirer et dire « Ouvrez-vous ». Et aussitôt, les oreilles de ce malade, la langue de ce malade, les yeux de ce malade, le nez de ce malade, les muscles de ce malade vont retrouver leur santé et il va de nouveau pouvoir entendre et commencer à parler en bien de notre Seigneur Jésus-Christ et proclamer sa gloire. Il a bien fait toute chose, il a fait entendre les sourds et parler les muets. Passons à la page 12, pour terminer ce chapitre 7. Alors, les pères de l'Église vont préciser ce que je viens de vous dire. Moi, je me contente de répéter ce que les pères de l'Église disent. C'est Saint Bède le Vénérable qui parle. Cet homme sourd-muet, c'est celui qui n'a point d'oreille pour entendre les paroles de Dieu, ni l'usage de la langue pour les annoncer aux autres. Et ceux qui depuis longtemps ont appris à entendre et à parler ce langage divin doivent s'empresser d'amener ces infirmes au Seigneur pour qu'il les guérisse. Donc ce sourd-muet, c'est celui qui refuse d'entendre les avertissements de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le muet, c'est celui qui n'ose pas accuser ses péchés devant Dieu. Beaucoup de nos fidèles sont malheureusement peuvent avoir été atteints au passé de mutisme spirituel. C'est terrible ça. C'est le démon qui travaille pour nous empêcher d'avouer certains péchés au confessionnal. Donc n'hésitez pas, parce que vous avez du mal à avouer un péché, toutes les jeunes et parfois même les moins jeunes, parfois des péchés, il faut avouer, qui sont difficiles à dire, qui sont très honteux. Certaines personnes peuvent avoir du mal. N'hésitez pas à le dire au prêtre. Je dis toujours, quand, quand je sens que les gens hésitent, ça se sent qu'on fait cela, avec un peu d'expérience, on le voit tout de suite, on entend tout de suite. J'arrête et je dis à la personne, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, manifestement, vous avez un truc à me dire là. Hein? Et c'est manifestement un gros truc et vous n'osez pas le dire. Si je peux vous aider en quelques mots, faites-le-moi savoir. N'hésitez pas à me dire. Si vous voulez, je vous interroge. Et parfois, on dit, oui, monsieur, vous m'avez interrogé moi parce que j'ai effectivement un truc à dire, mais je ne sais pas comment le dire. Et en général, en quelques secondes, je trouve ce qu'ils ne veulent pas dire parce que si c'est un homme, je sais quels sont les péchés que les hommes ont beaucoup plus de mal à avouer que les autres. Et quels sont les péchés que les femmes, au contraire, ont plus de mal à avouer. Et j'interroge directement là-dessus. Donc Saint Jérôme rappelle qu'il faut tout d'abord s'arracher aux pensées tumultueuses, aux actions coupables et aux paroles déréglées si on veut obtenir sa guérison. C'est pour ça que, on voit dans le texte, notre Seigneur Jésus-Christ tire à part de la foule ce sourd muet, justement pour l'arracher aux pensées tumultueuses, aux paroles déréglées du monde. Les doigts que le Sauveur met dans les oreilles du sourd muet sont les paroles et les dons de l'Esprit Saint, dont il est dit « le doigt de Dieu est ici ». Donc, lors du baptême, le prêtre va mettre de la salive d'abord sur le nez de la personne pour que la personne puisse sentir la bonne odeur de l'évangile, puis ensuite va marquer les deux oreilles du futur baptisé de sa salive, l'oreille droite d'abord, puis l'oreille gauche, justement pour ouvrir en quelque sorte, ce sont des exorcismes en fait. C'est pour ça que cette partie-là est toujours dite en latin dans le baptême, quand on parle aux démons, on parle en latin. Pendant le baptême. Et bien, cette partie-là est dite très clairement comme exorcisme pour libérer les liens qui empêchaient les oreilles de fonctionner normalement et la bouche de notre âme de parler normalement. Donc, les pères vont expliquer, page 12. Pardon. La salive, c'est la divine sagesse qui ouvre les lèvres longtemps fermées du genre humain. De manière à ce qu'il puisse dire « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant ». Bon, la salive est dans la bouche c'est le symbole de la parole. Les lèvres et la langue c'est le symbole de la parole. Et par la parole, on professe notre foi. Credo, je crois. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. C'est pour ça qu'avant le baptême, le prêtre demande non seulement aux baptisés, mais aussi à tous ceux qui sont présents, de prononcer justement ce credo. Il y a le credo, notre Père. On dit les deux. Donc, pour que le catéchumène affirme publiquement sa foi catholique. Monseigneur Lefebvre nous fait la remarque, avec raison, que par les temps qui courent, on a surtout besoin d'affirmer notre foi. Il nous disait souvent, ne cherchez pas tout le temps à vouloir prouver tout ce que vous dites en catéchisme, en sermon, mais affirmez votre foi. Ce dont les gens ont le plus besoin, c'est d'entendre l'affirmation de la foi catholique. C'est une image, mais je crois qu'elle dit bien ce qu'elle veut dire. De la même façon, si vous voulez, qu'aujourd'hui, le monde a énormément besoin de voir des religieux habillés comme des religieux. Vous ne pouvez pas savoir le bien qui se fait simplement par le port de la soutane dans une grande ville. Vous voyez, aujourd'hui, chez les faire un peu de chinage, on dit chinage en français, à Emmaüs, je vais acheter des petits trucs pour la cuisine dont j'avais besoin. Et je vois bien par la soutane dans ce milieu-là, l'effet que ça provoque, c'est absolument incroyable. Tous les yeux se tournent vers le prêtre. Bon, ils font semblant de ne pas me voir souvent, parce que souvent on est non-catholiques, c'est amusant de voir dans le maïs où je vais souvent à Albi, il y a une personne qui travaille là, qui est algérienne, je suppose qu'elle est musulmane, un jeune. À chaque fois qu'il me voit, il vient me saluer, me serrer la main, avec beaucoup de respect, chaque fois. Et il ne fait pas ça avec tout le monde, j'ai bien regardé, il fait ça qu'avec moi, parce que justement, il sait que je représente quelque chose, c'est peut-être sans doute pas quoi, il sait que je représente quelque chose. Et c'est ça dont le monde a le plus besoin. Quand le monde est dans l'obscurité la plus complète, de quoi a besoin le monde? Le monde a besoin d'une lumière. Il n'a pas besoin de savoir comment la lumière s'est allumée, d'où vient le courant électrique, comment se fait le courant électrique. Il a besoin de lumière. Bon, vous êtes dans l'obscurité, vous n'avez plus rien, il faut chercher le contacteur électrique, le mettre en marche pour que la lumière jaillisse. Après, on peut essayer d'expliquer, voir pourquoi le courant s'était interrompu, etc. Mais d'abord, la lumière. Et donc, ce dont les gens qui vivent dans la nuit ont plus besoin, c'est de la lumière. De la même façon, ce dont ont besoin aujourd'hui les pauvres gens qui ont abandonné la foi catholique dans le monde moderne, c'est d'entendre la foi catholique prêchée envers et contre temps. Je voudrais vous citer à ce propos un texte magnifique de saint Paul à Timothée. Ce texte, on le trouve à la messe des docteurs. C'est l'épître de la messe des docteurs, au commun des docteurs de l'Église. Voilà ce que dit saint Paul en parlant à Timothée. « Mon bien-aimé, je t'adjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts, au jour de son avènement et de l'instauration de son règne, prêche la parole, prêche les hommes à temps et à contre-temps, reprends, supplie, menace en toute patience et sans cesser jamais de les instruire. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais dans leur démangeaison d'entendre ce qui les flatte, ils se donneront des maîtres selon leurs désirs et détourneront l'oreille de la vérité pour l'ouvrir à des fables. Mais toi, veille, travaille sans relâche, fais ton œuvre de prédicateur de l'Évangile, remplis ton ministère. Car pour moi, je suis sur le point d'être sacrifié, le moment de ma mort approche. J'ai bien combattu, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il ne me reste qu'à attendre la couronne de justice qui m'est réservée, que le Seigneur en grand juge me rendra en ce grand jour, et non seulement à moi, mais aussi à ceux qui aiment son avènement. J'ai gardé la foi. Voilà ce que vous devez faire, mes bien chers frères. J'ai gardé la foi. Il faut veiller, travailler sans relâche. Parce que justement, on est dans ce temps, dit saint Paul, où les hommes ne supportent plus la saine doctrine. Mais ils ont cette démangeaison d'entendre ce qui les flatte, ce qui leur plaît. Ces paroles de saint Paul n'ont pas perdu une ride, mes bien chers frères. Donc notre Seigneur Jésus-Christ va aussi, nous disent les pères, pousser un soupir. Pousser un soupir, c'est le verset 34. En levant les yeux au ciel, Jésus soupira et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvrez-vous ». Il pousse un soupir en levant les yeux au ciel et nous enseigne la pratique des saints gémissements et aussi à lever vers le ciel les trésors de notre cœur car ce sont les gémissements de la componction qui purifient les joies frivoles de la chair. Les anciens représentaient ce point de doctrine par le roucoulement de la colombe. La colombe qui roucoule pendant un long temps, ce n'est pas un cri bref comme un autre oiseau qui chante, c'est un roucoulement constant. Eh bien, cela représente, disent les pères, les gémissements de componction, les soupirs de l'âme devant Dieu. Seigneur, venez à notre secours. Et c'est comme ça d'abord que, d'ailleurs, que les pères commençaient toutes leurs prières. Deus in adjutorium meum intende, domine ad adjuvandum me festina. Seigneur, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir. Et c'est comme ça qu'on commence tous les offices. Chaque fois que le prêtre dit son bréviaire, 7 fois par jour, les 7 parties du bréviaire, il commence par cette phrase, justement, pour demander au bon Dieu d'ouvrir, encore une fois, les oreilles, les langues, la langue de l'âme, pour qu'elle puisse écouter les divines inspirations. Donc, le bon Dieu va également, disent les pères, marquer les oreilles pour qu'elles s'ouvrent aux hymnes, aux cantiques et aux psaumes, et délier la langue, donc il va marquer également du signe de la croix la langue du sourd-muet, pour qu'elle puisse faire entendre la bonne parole sans crainte ni menace, ni des menaces ni des supplices. Et ensuite, le Père précise, quand le Christ ouvre les oreilles et délie la langue du corps, ce sont les oreilles et la langue de l'âme qui l'ouvrent, afin qu'elle puisse écouter ses divines aspirations et croire qu'il est le Messie auprès de qui l'âme pourra demander et obtenir le pardon de ses péchés. Donc nous devons avoir ces gémissements de componction, de compassion, si vous voulez. Le mot compassion représente bien ce qu'il faut faire. Compassion, cum patere, souffrir avec, c'est l'étymologie latine. La compassion, c'est là que celui qui... La Sainte Vierge, si vous voulez, qui voudrait prendre les souffrances de son fils sur la croix, sur elle, pour en libérer son divin fils, et qui ne peut rien faire, elle reste au pied de la croix, elle regarde son fils et elle lui dit « Je suis là ». C'est tout ce qu'elle peut faire. C'est ça la compassion. Et c'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire, nous aussi, de rester au pied de la croix, de dire, voilà mon Dieu, dans ce monde de fou dans lequel on est obligé de vivre, dans ce monde qui abandonne notre Seigneur Jésus-Christ, qui apostasie partout, eh bien mon Dieu, je suis là. Hein? J'ai gardé la foi avec votre grâce, gardez-la moi encore longtemps dans mon cœur jusqu'à ma mort. Parce que si je l'ai gardée, c'est par votre grâce, et si je veux la garder jusqu'à la mort, ce sera aussi par votre grâce. Je ne peux pas la garder par moi-même tout seul. Anthropologiquement, dire moralement, chacun doit chercher la même chose et dire avec le psalmiste, « Ô Seigneur, ouvrez mes lèvres et ma bouche chantera vos louanges. » C'est psaume 51. Nous devons faire la même chose concernant nos oreilles pour que nous puissions chanter avec Isaïe. « Le Seigneur m'a donné la langue des sages pour que je puisse savoir comment parler à celui qui est fatigué. » Le Christ ouvre donc les oreilles quand il touche la langue de l'âme avec son propre doigt, car le Saint-Esprit est le doigt de Dieu. Et avec la salive de la sagesse céleste qui sort de la bouche du Tout-Puissant. Donc cette marque de la croix sur les organes malades, ici notre Seigneur va guérir un sourd-muet, donc cette marque sur l'organe de la parole, la langue, et cette marque sur les oreilles, organe de l'audition, eh bien cela indique justement que derrière ce signe physique, il y a une autre guérison beaucoup plus importante qui, elle, ne se voit pas, à savoir la guérison de la surdité de l'âme et du mutisme de l'âme. J'ai déjà expliqué. Donc notre Seigneur Jésus-Christ soupire par condescendance avec la misère du sourd-muet. Notre Seigneur Jésus-Christ va prendre sur lui toutes nos imperfections, tous nos péchés, tous nos châtiments provoqués par nos péchés, obtenant pour lui aussi de Dieu la guérison. Il regarde vers le ciel comme homme et guérit par un seul mot, ayant la puissance de la majesté divine. Et à ce sujet, je peux vous citer ces magnifiques passages qu'on trouve dans le livre d'Isaïe qui annonce la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au chapitre 53 du livre d'Isaïe. Il va parler du Messie en disant, en annonçant par avance des centaines d'années avant, il n'a ni beauté ni éclat. Nous l'avons vu, il n'avait pas d'apparence et nous l'avons méconnu. Il était méprisé, le dernier des hommes, un homme de douleur qui connaît la souffrance. Son visage était caché, il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. Vraiment, il a porté nos douleurs et il s'est chargé lui-même de nos douleurs et nous l'avons considéré comme un lépreux, comme un homme frappé de Dieu et humilié. Et cependant, il a été blessé pour nos iniquités, il a été brisé pour nos crimes. Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui et nous avons été guéris. Par ses meurtrissures, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun s'était détourné sur sa propre voie. Le Seigneur a placé sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été offert parce que lui-même l'a voulu et n'a pas ouvert la bouche comme une brebis qu'on mène à la boucherie, comme un agneau devant celui qui le tond. Il a gardé le silence et n'a pas ouvert la bouche. Il a porté sur lui toutes nos iniquités. Il a livré son âme à la mort, il a été mis au nombre des scélérats, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Passage magnifique du prophète Isaïe, chapitre 53. Eh bien, chers frères, comme il nous faut méditer sur les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, quand les fidèles des gens se plaignent à moi des misères des temps du temps actuel, monsieur l'abbé, on est tout seul, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je suis complètement découragé. J'ai l'impression qu'on perd notre temps, que le bon Dieu nous a complètement oubliés. La réponse, elle est où? Et je réponds toujours la même chose. Je leur dis, agenouillez-vous devant votre crucifix. La réponse, elle est sur le crucifix. C'est ce que doit expliquer une maman à son petit. Ça arrive très souvent dans les familles où le crucifix est à la place d'honneur de la maison. L'enfant, dès qu'il sait parler, j'ai remarqué que les petits-enfants, même à 3-4 ans, ils sont attirés par la croix. Ils disent, mais maman, pourquoi le monsieur sur la croix, il est comme ça? Je vois qu'il y a un clou dans ses mains, un clou dans ses pieds, puis il a une couronne d'épines autour de sa tête, et puis il y a des marques partout de sang. Pourquoi? Et la maman va décrocher le crucifix, va faire sentir les clous à l'enfant. Et va expliquer à l'enfant, vous voyez, mon petit, cet enfant, c'est le bon Dieu. Et ces clous, bien c'est les pécheurs qui ont cloué les mains de notre Seigneur, les poignets de notre Seigneur, jusqu'à les pieds de notre Seigneur. La couronne d'épines, c'est nous, les pécheurs, qui l'avons tressée et mise en force sous le crâne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mon petit, à chaque fois que vous désobéissez à votre maman, vous désobéissez à votre papa, eh bien, vous renouvelez ce crucifiement. Vous prenez le marteau, vous tapez sur les clous. C'est ce que vous voulez faire? Et l'enfant qui comprend ce genre de langage très bien, beaucoup mieux que nous, va dire, ah ben non, je ne veux pas faire ça. Alors, maman explique, hier, mon petit, vous avez fait un gros caprice. Mais hier, vous avez crucifié notre Seigneur sur l'autel de votre âme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et l'enfant par lui-même va dire, ben, je vais embrasser le crucifix pour lui demander pardon. Voilà. Et puis l'enfant embrasse le crucifix pour demander pardon, mon Dieu. Et puis l'enfant va aussi embrasser sa maman et son papa pour leur demander pardon pour le caprice de la veille. Et comme toute cette éducation est tellement, tellement importante, mes bien chers frères. Donc, notre Seigneur regarde vers le ciel comme homme, mais guéri par un seul mot, il y a la puissance de la majesté divine. Donc, il est à la fois homme et Dieu. Les signes extérieurs qui sont vus par tout le monde, c'est l'humanité. La guérison intérieure de l'âme, c'est la divinité. Et pour marquer justement ce pouvoir sur l'âme, Dieu va guérir le malade. Cet homme, dit Saint Grégoire, ne parla qu'après que ses oreilles se furent ouvertes. Ainsi devrions-nous faire toujours et ne parler qu'après avoir écouté Dieu. Une belle phrase de saint Augustin. Voulez-vous comprendre, dit saint Augustin, commencez par croire. L'intelligence est la récompense de la foi. Ne cherchez pas à comprendre pour croire, mais croyez pour comprendre. C'est pour ça que l'intelligence est un don du Saint-Esprit. Ces dons du Saint-Esprit sont justement là pour nous aider, si vous voulez, à diriger notre intelligence vers le bon Dieu. Du plus petit au plus grand, même le plus petit, le don de crainte de Dieu va nous permettre d'arriver à la sagesse, le plus grand des dons du Saint-Esprit. Et donc, il faut avoir cette intelligence des choses de Dieu. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi, mais croyez pour comprendre. C'est là où il faut répéter « Credo, je crois ». Et lorsque nous sommes un peu dépassés par certains événements, lorsque nous posons trop de questions, c'est ce qui se passe actuellement, qu'on a l'impression que le bon Dieu, encore une fois, nous a complètement abandonnés, qu'est-ce qu'il faut faire? S'agenouiller et répéter notre credo, je crois. C'est Saint Vincent de Paul qui avait, je l'ai déjà dit souvent, mais je réexplique, parce que ça me vient à l'idée en ce moment, mais Saint Vincent de Paul s'occupait d'un jeune qui avait des tentations terribles contre la foi. Alors, il a prié, il a demandé à ce que ce jeune homme soit délivré de ses tentations contre la foi, que ses tentations contre la foi lui soient appliquées à lui, Vincent de Paul. Et le bon Dieu a accepté. Et Saint Vincent de Paul a commencé à avoir ses tentations terribles contre la foi, terribles. Et le jeune homme a été délivré. Et ses tentations étaient tellement fortes que Saint Vincent de Paul a dû écrire le credo sur une feuille de papier, il a écrit tout le credo. Il a plié le papier, il l'a mis dans la poche intérieure de sa soutane, sur la poitrine. Puis à chaque fois qu'il commençait à avoir des tentations terribles contre la foi, il touchait de sa main droite l'endroit de sa soutane où il y avait le papier, avec le credo écrit sur ce papier, et il disait tout bas, « Mon Dieu, je crois fermement à toutes les vérités qui sont écrites sur ce papier. Je crois, je crois, je crois. » Et le bon Dieu a fini par avoir pitié saint Paul et lui a enlevé les tentations. Vous voyez, donc, les tentations contre la foi sont les plus dangereuses. Les plus dangereuses. Certes, les tentations contre la charité, les tentations contre l'espérance sont aussi dangereuses, mais contre la foi, c'est terrible, parce que la foi est la fondation même de la charité. Je le dis souvent, on peut avoir la foi sans la charité, mais l'inverse, c'est pas vrai. On ne peut pas avoir la charité sans foi et sans espérance, c'est pas possible. Donc quand il y a charité dans une âme, quand il y a l'habitation dans une âme de la Sainte Trinité, c'est qu'il y a la foi et l'espérance. Malheureusement, il peut y avoir, enfin heureusement, plutôt, il peut y avoir la foi et l'espérance. Si je commets une faute grave, je perds la charité, mais heureusement, je garde toujours la foi et l'espérance, même si elles sont gardées en mon âme de façon informe, une foi informe, une espérance informe. Donc, ne cherchons pas à poser trop de questions, bon Dieu. Je pense que c'est un peu un problème de monde moderne qui veut absolument des réponses pour tout. Eh bien, il faut avoir l'humilité de dire « je ne sais pas ». Comment le bon Dieu a-t-il permis telle chose ? Je ne sais pas, mais que sa volonté soit faite. Comment le bon Dieu peut-il être présent dans la Sainte Eucharistie avec son corps, son sang, son âme et sa divinité ? Moi, je vois qu'un bout de pain, ce n'est pas possible. Comment cela est-il possible ? Je crois, Seigneur, que vous êtes présent par le mystère de la transsubstantiation avec votre corps, votre sang, votre âme et votre divinité. Mais comment le bon Dieu a-t-il fait pour changer l'eau en vin ? Je crois, Seigneur, que vous êtes Dieu, et étant Dieu, vous avez pu changer, transsubstancier l'eau en vin. Et c'est pareil pour tout. C'est pour ça qu'à la base de tout, il y a la vertu d'humilité. Sans humilité, on ne peut absolument rien faire. Donc on voit bien ici, dans tous ces miracles, que notre Seigneur Jésus-Christ va utiliser son humanité pour manifester sa divinité. Donc ici-bas, on ne peut pas tout comprendre. Il y a des gens qui veulent bien croire au bon Dieu à condition de comprendre tous les mystères. Il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, tant qu'il y a des mystères, j'accepte pas. Moi, j'accepte pas quelque chose que je ne peux pas comprendre. J'accepte que ce que je peux comprendre. Comment voulez-vous, avec un cerveau de la taille d'un pois chiche, de comprendre le cerveau divin, infiniment grand ? Vous voyez ? Rappelez-vous cette petite phrase qui était dans les catéchismes de notre enfance. Moi, je me rappelle le catéchisme de mon enfance, la miche de pain. Il y avait cette phrase avec une page toute noire. Un petit garçon qui cherchait à comprendre. Et en bas, il y avait une petite phrase qui disait « Une petite fourmi noire sur une pierre noire, dans la nuit noire, Dieu la voit. » L'enfant ne la voit pas parce qu'il a un petit cerveau et des petits yeux. Le bon Dieu la voit, cette petite fourmi, sur une pierre noire, dans la nuit la plus profonde, parce qu'il a un cerveau divin. Et qu'il est Dieu. Donc il faut, c'est très important, mais bien cher frère, aujourd'hui, de ne pas trop chercher à tout comprendre, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas comprendre. Le mystère de l'incarnation, de comprendre, impossible. Le mystère de la Sainte Trinité, impossible de comprendre. Le mystère de la rédemption, peut-être le plus grand de tous les mystères. Comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il pu penser une seule seconde à accepter de mourir sur la croix par demande de son Père ? Pour les pécheurs qui s'en fichent, qui se moquent de lui. Et puis ce mystère insondable de la toute-puissance de Dieu qui respecte en même temps la liberté de l'homme. Comment la grâce sanctifiante peut-elle à la fois être toute-puissante et à la fois respecter la volonté de l'homme ? Comment un homme en état de grâce qui jouit de la Sainte Trinité dans son âme, c'est l'habitation dans une âme de la Sainte Trinité, comment un homme en état de grâce peut-il en arriver à expulser notre Seigneur Jésus-Christ de son âme par le péché. C'est inimaginable. Au dehors, disent les pères, c'était la lettre de la loi. Au dedans, c'est la vérité des mystères. Ils ne voyaient dans la loi que les feuilles de l'arbre et n'en voyaient pas le fruit. Se réfugiant sous l'ombre de la loi, ils ne voyaient point le soleil de justice. Et c'est pour cela que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est venu, eh bien, ils n'ont pas accepté sa divinité, que la plupart des juifs, pas tous heureusement, que la plupart des juifs ont refusé notre Seigneur Jésus-Christ, ont commis ce crime de déicide. Certains, heureusement, se sont convertis. N'oublions jamais que tous les premiers membres de l'Église catholique en Palestine sont tous pratiquement tous des juifs convertis. Il ne faut pas oublier ça. Mais en se convertissant, ils ont quitté le judaïsme pour monter dans cette barque hors de laquelle il ne peut y avoir de salut, la barque de l'Église catholique, une sainte catholique et apostolique. Donc il faut insister sur ces choses-là, surtout pour tous les gens qui sont scandalisés par ce qui se passe actuellement. Beaucoup de gens nous disent, sont scandalisés par certaines choses. Monsieur l'abbé, si Dieu est Dieu, pourquoi il accepte la mort ? Pourquoi il accepte les souffrances de tous ces enfants ? 250 000 enfants coupés en morceaux dans le sein de leur mère simplement en France tous les ans. On appelle ça l'IVG pour cacher la réalité. Une meurtre épouvantable. Un péché tellement grave que l'Église cache l'avortement dans les péchés qui crient vengeance contre le ciel. Les péchés contre nature qui sont partout maintenant dans le monde, à qui l'État veut donner tous les droits. Et des mariages, des unions contre nature qui ont les mêmes droits qu'un mariage légitime d'un homme et d'une femme. Comment le bon Dieu peut-il permettre des horreurs pareilles? Eh bien, il faut se mettre à genoux, embrasser le crucifix et dire au bon Dieu, mon Dieu, que votre volonté soit faite. Je crois, mais augmenter ma foi. J'espère, mais augmenter mon espérance. Et je vous aime, mais augmenter mon amour. On le voit très bien, même chez les apôtres. Les apôtres eux-mêmes ont eu du mal. Il faut attendre le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ pour que les apôtres puissent croire vraiment notre Seigneur Jésus-Christ. On le voit très bien dans l'évangile de... Aujourd'hui j'enregistre cette conférence le 11 janvier. Demain, c'est le 12 janvier, c'est le deuxième dimanche de l'Épiphanie. Pardon, je me trompe, demain, c'est le 10... J'enregistre cette conférence le 18 janvier, demain, c'est le deuxième dimanche de l'Épiphanie. Et au deuxième dimanche de l'Épiphanie, il y a ce texte du premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ à Cana, là où il change l'eau en vin. La Sainte Vierge qui dit à notre Seigneur, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus fit là le premier de ses miracles à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Sous-entendu, avant le premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ, les disciples de notre Seigneur ne croyaient pas encore en notre Seigneur. Vous voyez? Nous, on est un peu comme ça. On a besoin de miracles. Le problème, c'est que nous, on ne voit pas les miracles de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourtant, il y en a plein qui se passent tous les matins devant nous. Une fleur qui s'ouvre au soleil, une plantule qui croit sous le soleil, c'est des miracles extraordinaires. On ne les voit pas. On ne les voit pas parce qu'on est tellement habitué à voir ces choses-là qu'on voit plus que c'est un miracle. Ces miracles extraordinaires de la grâce. Ces personnes qui viennent voir le prêtre, qui sont plongées dans le péché, qui font une bonne confession et qui sortent, ressortent du confessionnal après avoir été purifiées de leur péché. Allez en paix. Vos péchés sont pardonnés. Ne regardez plus en arrière. Maintenant, changez de vie et jetez-vous dans la miséricorde infinie du bon Dieu. Vos péchés sont pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et tous les péchés de cette personne sont pardonnés. Voilà des miracles extraordinaires, mais on ne les voit pas. Alors, parce qu'on ne les voit pas, on les oublie. Pourtant, des miracles de ce genre, il y en a encore beaucoup plus qu'on ne croit, mes bien chers frères. Dieu merci, il n'y en a pas beaucoup. Mais ça a toujours été comme ça. L'immense majorité des gens, malheureusement, ne suit pas notre Seigneur Jésus-Christ. Hélas, c'est triste, mais c'est comme ça. Rappelez-vous la prédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Nombreux, large est la porte qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui la prennent. Étroite et resserrée est la porte qui mène à la vie éternelle, et peu nombreux sont ceux qui la prennent. Oui, mais bien, chers frères, comme il y a tellement de choses à dire sur ces textes magnifiques. Alors, encore une fois, nous arrivons donc là à la fin du chapitre 7. Prochaine fois, Dieu aidant, je commencerai le chapitre 8 avec la deuxième multiplication des pains. Et je vous conseille beaucoup, tous ceux qui veulent vraiment travailler, le site est fait pour ça, pour... C'est pas un site de dispute ou d'argumentation très serrée, c'est un site de travail pour ceux qui veulent étudier leur foi. Et je veux qu'il reste comme ça. Eh bien, relisez, mes bien chers frères, relisez avant le prochain cours, au mercredi prochain, relisez avec grand soin, relisez les pages de commentaires de ce chapitre 7 de Saint-Marc. Et ainsi, vous vous mettrez dans votre tête lentement toutes ces grandes vérités des pères de l'Église. Vous voyez, c'est important de se mouler à la volonté des pères de l'Église. En acceptant l'enseignement des pères de l'Église, on comprend l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'encore une fois, ce sont ces pères de l'Église et eux seuls qui ont la clé qui ouvre la compréhension des Écritures et la, La Sainte Église demande, entre autres dans son serment antimoderniste de Saint-Pilice en 1910, demande à tous les prêtres de garder l'interprétation des Écritures telle qu'elle a toujours été enseignée par l'Église. Je vous lis ce texte de Saint-Pilice pour conclure ce cours. Une partie du serment antimoderniste de 1910, tous les prêtres sont obligés de le prêter avant leur ordination. J'admets, je reconnais les arguments externes de la révélation, c'est-à-dire les faits divins, parmi lesquels en premier lieu les miracles et les prophéties, comme des signes très certains de l'origine divine de la religion chrétienne. Et ces mêmes arguments, je les tiens pour parfaitement proportionnés à l'intelligence de tous les temps et de tous les hommes, et même du temps présent. Je crois aussi d'une foi ferme que l'Église gardienne et maîtresse de la parole révélée a été instituée de manière prochaine et directe par le Christ en personne, vrai et historique, durant sa vie parmi nous. Et je crois que cette Église bâtie sur Pierre, chef de la hiérarchie apostolique, et sur ses successeurs jusqu'à la fin des temps. Je reçois sincèrement la doctrine de la foi que les pères orthodoxes nous ont transmises des apôtres, toujours dans le même sens et la même interprétation. C'est pourquoi je rejette absolument la supposition hérétique de l'évolution des dogmes, d'après lesquels les dogmes changeraient de sens pour en recevoir un différent de celui que leur a donné tout d'abord l'Église. Et pareillement, je réprouve toute erreur qui consiste à substituer au dépôt divin confié à l'épouse du Christ et à sa garde vigilante une fiction philosophique ou une création de la conscience humaine, laquelle, formée peu à peu par l'effort des hommes, serait susceptible dans l'avenir d'un progrès indéfini. Plus loin, il dit, je réprouve, et ça c'est la partie que je cherchais, je voudrais bien que vous compreniez, je réprouve pareillement cette méthode d'étude et d'interprétation de l'Écriture sainte qui, faisant litière de la tradition de l'Église, de l'analogie de la foi et des règles du siège apostolique, s'inspire des méthodes de travail des rationalistes et avec autant d'audace que de témérité, n'accepte comme suprême et unique règle que la critique textuelle. Je rejette l'opinion de ceux qui prétendent que, dans l'exposition des questions historiques et théologiques, le savant ou quiconque s'occupe de ces matières doit d'abord se débarrasser de toute idée préconçue, soit au sujet de l'assistance divinement promise pour la conservation perpétuelle de chaque point de vérité révélé, pour interpréter ensuite les écrits de chaque père en dehors de toute autorité sacrée. Je professe donc être complètement indemne de cette erreur des modernistes. Voilà, mes bien chers frères, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.